On va déguster. Sur France Inter.
Un tout petit point sémantique sur soupe au lait quand même.
Ah, je l'attendais.
Alors l'étymologie n'est pas forcément très claire, on dit que ça daterait du XVIIe ou XVIIIe siècle, mais c'est d'une simplicité biblique, tout simplement comme le lait ou la soupe de lait monte très très vite dans une casserole, elle redescend aussi sec, de la même manière que le tempérament d'une personne très émotive, qui s'emballe un peu vite.
Qui se sent soupe au lait autour de ce plateau?
Il y a une petite dimension de susceptibilité aussi dans
d'accord.
Le soupe au lait. Je ne sais pas si c'est l'humeur de l'analyse.
Ah, voilà, il y en a certains qui se sentent visés, c'est ça?
Il faut transformer l'émission en émission de développement personnel, sinon. En réfléchissant à l'émission d'aujourd'hui, je me suis dit que les occasions de cuisiner avec du lait se sont perdues ou un peu évaporées dans le temps à mesure que notre consommation de lait a baissé. Ça paraît assez logique. Alors bien sûr, on utilise encore du lait au quotidien en cuisine pour certains gâteaux. Je pense au clafoutis pour faire de la pâte à crêpes, du pain perdu. Pour certains et certaines, on en met un peu dans la purée de pommes de terre. On fait toujours de la béchamel quand on en fait. On poche un haddock. Il y a bien encore le gratin dauphinois. Mais enfin, il m'a semblé que la cuisine au lait avait comme un petit parfum de nostalgie que j'aime bien. Et comme je fais pas mal de soupe en ce moment et que la soupe est un terrain de jeu infini, je me suis penchée
sur... D'ailleurs réconcilié avec la soupe. Hein.
Ah oui, j'adore ça. Ouais.
Il a fallu quelques années.
Je croyais que c'était ennuyeux, mais la soupe, c'est une palette infinie.
C'est passionnant.
Et c'est amusant. Ouais. Ben, je me suis penchée justement sur le sujet de la soupe de lait ou soupe au lait, que l'on pratiquait, je pense, en France, dans toutes les régions où il y avait des fermes d'élevage. Mm-hmm. Ça pouvait être un apprêt très simple. Dans la Sarthe, par exemple, on pratiquait la miotée. Chacun la faisait dans sa propre assiette creuse. C'est pas vraiment une soupe. On avait une assiette creuse. On y versait des morceaux de pain rassis. On les disposait, on arrosait de lait froid. Certains y ajoutaient un petit peu de sel ou du sucre, c'était rafraîchissant les soirs d'été. Les adultes remplaçaient le lait par du vin, ça s'appelait une trempée alors. En Bretagne, on pratiquait aussi la soupe de lait, mais une soupe de lait aux oignons. Quelques oignons revenus dans du beurre, du lait entier cru de la ferme, du pain rassis. C'était pas une soupe passée, on la mangeait comme ça, avec ses morceaux et ses filaments d'oignons. Je me suis souvenue aussi d'une recette d'Alain Passard, ou plutôt de la recette de sa grand-mère Louise, qui lui préparait dans son enfance en Bretagne, toujours. Cette soupe faite d'échalotes mises à suer avec un blanc de poireau, une pomme dans du beurre recouvert de lait cru, cuisson frémissante pendant une trentaine de minutes. Et à la fin, elle ajoutait quelques feuilles d'oseille et elle cassait des œufs. Elle comptait quelques minutes, elle le servait comme ça.
Extra, j'aimerais bien goûter ça.
Ouais, on mangeait ça avec du pain de campagne grillé, selon Alain Passard. C'était à la fois très simple et très pensé et très différent d'un répertoire... un peu répétitif, mais assez large quand même.
C'est aussi très breton.
Hein. C'est très breton. Ah oui, mais son enfance était en Bretagne. Ouais.
Didier Nourisson.
La Bretagne est vraiment le haut lieu de la production de lait et des produits lactés, enfin surtout le beurre et la crème. Mais on a vraiment une tradition du lait comme tradition du goût.
Mais je pense qu'on pourrait trouver un répertoire de recettes de cuisine au lait en Bretagne, ça serait intéressant.
Mmh. Il se sent un peu visé, le jeune homme. Pierre Coulon, il a des origines bretonnes.
Ouais, non. Alors,
il va nous raconter une petite torture d'enfance.
J'aurais préféré avoir l'enfance d'Alain Passard, clairement, quand j'entends la recette, parce que moi, j'ai des souvenirs de ma mère, certains dimanches soirs, qui, sûrement un peu par flemme, essayait de nous faire manger un truc qui s'appelait le groux. Et alors, c'était soit de l'eau et de la farine de sarrasin, soit du lait et de la farine de sarrasin, tout en nous un peu culpabilisé avec ma frangine, comme quoi fallait bien finir l'assiette, parce que c'est ce que mangeait mamie, alors que nous on voulait des knackis, clairement. Et donc c'était le groux, et j'en reparlais avec elle hier, et c'est vrai qu'on se moquait quand même beaucoup.
Mais groux, c'est un gruau en fait.
Ouais,
étymologiquement, j'imagine.
Une noix de beurre, 300 grammes de farine, 800 grammes de lait ou d'eau, et hop, ça fait une bouillie pas folle, mais voilà.
Donc c'est pas vraiment votre madeleine d'enfance.
Ah ouais, non, clairement pas.
C'était une manière d'utiliser le lait en excédent qui allait tourner de toute façon.
Absolument.
Bien sûr, on jetait rien. L'enfance de Pierre est plus proche d'une enfance de pays de l'Est où effectivement il y avait un énorme répertoire de soupe de lait. En Estonie, on mange encore aujourd'hui la macaroni piima soup. Je dis piima parce qu'il y a deux i, hein, comme souvent dans cette langue. Une soupe de lait au macaroni, un plat du quotidien, un plat que les enfants estoniens ont mangé toute leur enfance dans les cantines de l'époque soviétique. En Pologne, on mangeait une zupa mleczna. Une soupe de lait
avec
garnie de nouilles aux œufs, genre spätzle. D'ailleurs, j'ai pas trouvé de recette de ce type en Alsace. Donc, si, amis auditeurs, si vous avez des recettes de soupe de lait au spätzle en Alsace, ça m'intéresse. J'ai pas trouvé. Et cette zupa mleczna est typique de ce qui se servait dans les bars à lait polonais. Ces petits restaurants qui remontent à bien avant l'époque soviétique, enfin, à l'époque communiste, mais qu'on associe pourtant à cette période, des restaurants où l'on servait à bas prix des repas à base de farine, d'œufs et de lait. Alors, sous le communisme, ils se sont apparentés à des restaurants solidaires de type soupe populaire. J'ai découvert que dans les années 30, les bars à lait ont essaimé également en Grande-Bretagne, c'est les milk bars, et en Suède, ce que j'ignorais, les mjölk bars. Leur mission y était moins solidaire qu'éducative. C'était presque des lieux de lobbying sur les vertus du lait pour les enfants et les adultes. La vertu du lait, justement, Ce pourrait être le sous-titre ironique d'un film de 2019 qui est diffusé depuis quelques jours sur Arte, un film islandais de Grímur Hákonarson qui s'appelle Mjölk, la guerre du lait. Dans un petit village islandais après le suicide de son mari, Inga reprend seule la ferme laitière familiale qui croule sous les dettes et découvre que l'exploitation est littéralement étranglée par la coopérative locale, son monopole et ses pratiques mafieuses. Elle déclare la guerre à ce système et le film fait le récit de son combat, de sa solitude puis de la solidarité qu'elle arrive à faire naître. C'est très fort ce film, le combat de cette éleveuse, veuve, seule dans un monde d'hommes qui part en guerre contre la perte des idéaux et l'ultralibéralisme qui étouffe le monde paysan. Parce que le lait, c'est aussi ça, c'est aussi la réalité d'une très grande souffrance dont Pierre pourra nous parler, je pense.
C'est prévu au programme, aussi. Pierre va nous en parler dans un instant. Vous nous rappelez les
références ? Mjölk, la guerre du lait de Grímur Hákonarson jusqu'au 10 mars sur Arte.